Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Nous avons besoin d'une église et d'une société qui n'exclut personne, qui ne traite personne d'impur. Exhortation du pape François avant la prière mariale de l'Angélus dimanche. Célébration dimanche de la journée de la charité du pape, jour où l'on recueille des quêtes et des dons pour les deniers de Saint-Pierre afin de soutenir la mission de charité et de proximité du successeur de Pierre. Nous en parlerons dans l'actualité de l'église avant la rétrospective de l'actualité de l'église en Afrique. L'actualité sociale et politique africaine nous conduira notamment en République démocratique du Congo, au Nigeria, au Soudan. Au cours de cette édition, vous suivrez également la suite de la présentation du rapport de synthèse de la première session du synode sur la synodalité. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Dans son exhortation précédant la prière mariale de l'Angélus dimanche sur la place Saint-Pierre, le pape François a médité sur les deux guérisons évoquées dans l'évangile, celle de la fille de Jaïr et celle de la femme atteinte des saignements. À contre-courant de la pensée de l'époque qui considérait ces deux femmes comme impures, Jésus les touche et montre aussi le chemin à faire, car a estimé le Saint-Père, nous avons besoin d'une église et d'une société qui n'exclut personne, qui ne traite personne d'impur. Les comptes rendus de Jean-Benoît Harel.
Jésus se laisse toucher et n'a pas peur de toucher. Depuis la fenêtre du palais apostolique, le pape a insisté sur le geste de Jésus qui prend la main de la fille de Jaïr et lui demande de se lever, tout comme le contact a lieu par le manteau entre Jésus et la femme malade atteinte de saignement. Par ces deux gestes, Jésus remet en question une fausse conception religieuse selon laquelle Dieu sépare les purs d'un côté et les impurs de l'autre, a expliqué François. Le Fils de Dieu vient préciser d'où vient l'impureté, a continué le Saint-Père. L'impureté ne vient pas de la nourriture, de la maladie ou même de la mort, mais d'un cœur impur. Ainsi, Dieu vient nous prendre par la main et nous touche pour nous guérir et nous redonner la vie. Dieu étiquette-t-il les personnes, a interrogé le pape. Non, bien au contraire, il ne discrimine personne parce qu'il aime tout le monde, a assuré François. C'est alors chacun de nous que le Saint-Père a interpellé depuis la place Saint-Pierre, nous encourageant à imiter Jésus car nous avons besoin d'une église et d'une société qui n'exclut personne, qui ne traite personne d'impur, afin que chacun, avec sa propre histoire, soit accueilli, aimé, sans étiquette ni préjugé, a conclu le souverain pontife.
Sans étiquette, sans préjugé. Jean-Benoît Harel. Le 30 juin, l'Église commémore les proto-martyrs romains, a rappelé le pape après l'Angélus. Nous vivons nous aussi une époque des martyrs. Plus encore qu'au 1er siècle, dans diverses parties du monde, tant de nos frères et sœurs souffrent des discriminations et des persécutions à cause de leur foi. D'autres affrontent les martyrs en gants blancs. Soutenons-les et inspirons-nous de leur témoignage d'amour pour le Christ. En ce dernier jour du mois de juin, implorons les sacrés cœurs de Jésus de toucher les cœurs de ceux qui veulent la guerre, afin qu'ils se convertissent à des projets de dialogue et de paix, a par ailleurs imploré le Saint-Père. Le dimanche 30 juin a par ailleurs marqué la célébration de la journée de la charité du pape, journée qui offre aux paroisses, aux personnes et aux communautés du monde entier l'occasion de faire des dons et des offrandes pour les deniers de Saint-Pierre et de soutenir ainsi la mission de l'évêque de Rome, une mission de paix, de charité, de proximité avec les personnes en difficulté. Chaque contribution, même la plus petite, est un soutien significatif à l'activité du pape qui veut être proche de tous, surtout de ceux qui souffrent. Et rappelons qu'à partir de lundi 1er juillet, en raison de la pause estivale, les audiences générales, particulières et spéciales du pape n'auront pas lieu pendant tout le mois de juillet. Elles reprendront les mercredis 7 août. Suivons à présent la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Parole à Christian Losambé.
Débutons cette rétrospective en nous rendant en République démocratique du Congo. L'assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, s'est achevée vendredi 28 juin. Au terme de ces assises, qui ont eu lieu au centre catholique Caritas de Kinshasa, Mgr Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, a été élu à la tête de la CENCO, succédant ainsi à Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Accompagné d'une délégation du comité permanent, le nouveau président de la dite conférence épiscopale a rencontré jeudi le président congolais Félix Tshisekedi, avec qui ils ont échangé sur la situation générale du pays. La messe de clôture a été présidée dans la soirée du vendredi dans la cathédrale Notre-Dame du Congo par le nouveau nonce apostolique, Mgr Métisage Lescovar, accueilli à Kinshasa le samedi 15 juin. Au Tchad, la situation devient de plus en plus intenable depuis quelques jours dans les maisons d'arrêt. Dans la prison de Klesoum N'Djamena, les prisonniers peinent à trouver à manger faute du paiement des factures des fournisseurs par les autorités. C'est le constat fait par Seylou Dorsouma, président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Tchad, qui a exhorté le gouvernement à subvenir aux besoins vitaux de ses détenus.
Rupture de stock de vivres, les prisonniers n'étaient pas bien alimentés. C'est une situation générale. Nous avons recommandé au gouvernement de payer les fournisseurs d'abord, de libéraliser en plus le marché de fourniture de vivres. L'État doit impérativement payer les factures et demander à ce que d'autres fournisseurs aussi puissent livrer des vivres aux prisonniers dans les maisons d'arrêt.
Toujours dans le même pays, l'Assemblée nationale des œuvres pontificales et missionnaires, OPM, s'est tenue du 20 au 23 juin dans le diocèse de Sarre, sous la présidence de Mgr Miguel Sébastien, l'ordinaire du lieu. L'évaluation de l'année pastorale écoulée par chaque diocèse et la préparation de la nouvelle année pastorale 2024-2025 ont été au cœur de cette rencontre qui a regroupé les directeurs diocésains et OPM délégués de tous les diocèses du Tchad. L'Association des femmes de l'Église catholique, AFEC, en Côte d'Ivoire, a tenu du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2024 son 18e conseil national, au terme duquel a été installée la nouvelle équipe dirigeante. Femme catholique, quelle est ma contribution pour vivre la synodalité dans mon Église? Tel a été le thème de ce conseil, à l'issue duquel Mgr Marcelin Yaokwadio, évêque de Daloa, a présidé la messe de clôture dans la cathédrale Christ-Roi de l'Univers. À cet effet, le prélat a invité les nouveaux membres à la confiance et à travailler sans relâche à l'unité au sein de l'association. Refermons cette rétrospective en nous rendant au Cameroun, où 63 jeunes venant des différentes paroisses du diocèse d'Edea se sont retrouvés en la cathédrale Sacré-Cœur de Mbanda du 19 au 23 juin. Donner aux jeunes des outils nécessaires au discernement vocationnel, tel a été l'objectif de ce camp vocationnel organisé dans ce diocèse. Au cours des enseignements reçus, l'abbé Alain-Jules Mbarga, l'un des membres de la commission d'accompagnement des vocations dans le diocèse d'Edea, a rappelé à ces jeunes que la vocation est un appel qui vient de Dieu et que le tout premier accompagnateur est le Saint-Esprit.
La vocation n'est pas d'abord une affaire humaine, mais maintenant, l'être humain participe à l'appel de Dieu par une coopération. Et cette coopération nécessite d'abord la connaissance de ce que nous voulons faire. Je veux devenir prêtre. Qu'est-ce qu'un prêtre ? Je veux devenir religieuse. Qu'est-ce qu'une religieuse ? Alors il faut connaître l'objet de son discernement. Et ensuite, nous avons l'interprétation de ce choix que nous avons fait à la lumière du magistère, de l'Écriture sainte et de la tradition.
Actualité sociale et politique en Afrique. Le dimanche 30 juin a marqué la célébration du 64e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors que le pays commémorait cette date importante, une source locale a indiqué que le groupe armé M23 continue de gagner du terrain dans l'Est en s'emparant de nouvelles localités sur les fronts nord du conflit qui l'oppose aux forces gouvernementales. Le M23, mouvement du 23 mars, s'est déployé dans la localité de Kirumba, dans la province du Nord Kivu, théâtre des violences depuis que ces groupes armés, soutenus par le Rwanda, a repris les armes en 2021. Ces éléments se dirigent désormais vers le nord de Kirumba, localité des 120 000 habitants, a ajouté cette source. Samedi, c'est la ville clé de Kanyabayonga située à 25 km de là, où vivent plus de 60 000 personnes et des dizaines de milliers de personnes déplacées ces derniers mois, qui est tombée aux mains des rebelles. Le président congolais Félix Tshisekedi a réuni samedi un conseil de défense, puis s'est exprimé à l'occasion de la journée d'indépendance en affirmant que des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays. Au moins 18 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans plusieurs attentats suicides samedi dans la ville de Gwoza, dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, rappelant un mode opératoire prisé par les groupes djihadistes Boko Haram. Précédemment, Boko Haram s'était emparé de Gwoza en 2014 et l'avait déclaré califat après s'être emparé d'une partie de l'état de Borno. Autre contexte conflictuel, les Soudans. Les forces paramilitaires soudanaises en guerre contre l'armée depuis 14 mois ont annoncé avoir pris le contrôle d'une base dans la capitale de l'état de Sennar au sud-est, provoquant la fuite des milliers d'habitants selon des témoins. Nous avons libéré la 17e division d'infanterie de Singa, la capitale de Sennar, ont affirmé les paramilitaires samedi sur leur compte X. Avec cette nouvelle percée, les paramilitaires resserrent l'étau autour de la ville de Port-Soudan dans l'état de la mer Rouge, dans l'est du pays, où l'armée, le gouvernement qui lui est fidèle ainsi que l'ONU ont pris leur quartier. L'état de Sennar, qui abrite plus d'un million de déplacés, connecte les centres du Soudan au sud-est contrôlé par l'armée et où des centaines de milliers d'autres déplacés ont trouvé refuge. Le père jésuite Martin Bahati poursuit la présentation du rapport de synthèse de la première session du synode sur la synodalité. Rapport publié le 28 octobre 2023 à l'issue des travaux.
Mes chers frères et sœurs, nous lisons le 7e point de la première partie du rapport de synthèse de la 16e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques tenue à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Cette section est intitulée « En chemin vers l'unité des chrétiens ». Cette section soulève quatre questions importantes à traiter. La première concerne l'observation des participants au synode. Il note la diversité des confessions chrétiennes dans la manière dont elles comprennent la configuration synodale de l'Église. Dans les églises orthodoxes, la synodalité est comprise au sens strict comme l'expression de l'exercice collégial de l'autorité des seuls évêques, le Saint-Synode. Dans un sens plus large, elle se réfère à la participation active de tous les fidèles à la vie et à la mission de l'Église. Les références aux pratiques en vigueur dans d'autres communautés ecclésiales n'ont pas manqué et ont enrichi le débat de l'Assemblée. Tout cela demande à être approfondi. Un autre thème à explorer, note la deuxième question, concerne le lien entre synodalité et primauté aux différents niveaux, local, régional, universel, dans leur interdépendance mutuelle. Cela demande une relecture partagée de l'histoire pour dépasser les lieux communs et les préjugés. La clarification de ce point délicat se reflète dans la manière de comprendre le ministère pétrinien au service de l'unité, comme l'a préconisé Saint Jean-Paul II dans l'encyclique Ut Unum Sint. La question de l'hospitalité eucharistique, communicatio in sacris, doit être approfondie d'un point de vue théologique, canonique et pastoral, à la lumière du lien entre communion sacramentelle et communion ecclésiale, pointe la troisième question. Ce thème est particulièrement ressenti par les couples interconfessionnels. Il renvoie également à une réflexion plus large sur les mariages mixtes. La quatrième question demande qu'une réflexion soit menée sur les phénomènes de communautés non confessionnelles et de mouvements de réveil d'inspiration chrétienne auxquels les fidèles, originellement catholiques, adhèrent en grand nombre.
Aide toi aussi le pape à aider. Manifeste par un petit geste de grande valeur symbolique ton amour et ta confiance envers le Saint-Père. Soutenons tous ensemble le Saint-Père dans l'annonce de l'Évangile et dans la charité envers ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les familles en difficulté, les populations frappées par la guerre ou qui ont besoin d'assistance humanitaire. Va sur le site obolo-di-san-pietro.va et clique sur « Donner maintenant ».
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service France-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.